France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On en parlerait des heures. La preuve, c'est que l'on en parle depuis des siècles, ou peut-être plus, qui de la poule ou qui de l'œuf. Mais là n'est pas la vraie question. Considérons l'œuf pour ce qu'il est. L'œuf est un aliment, un ingrédient, en tout cas une formidable source de protéines et un bonheur toujours renouvelé, s'il est bien frais, bien préparé, tout simple ou luxueux. L'œuf, mystère de la création, l'œuf, mystère de la résurrection, certes, et avant tout, l'œuf, la simplicité et la beauté. De bouche à oreille, consacré, on l'aura deviné, à l'œuf, c'était le 12 avril 1998 sur France Culture.
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table !
Aujourd'hui, l'œuf.
L'œuf au plat ou l'omelette, mais on confine au sacré, là, vous n'imaginez pas la difficulté de cette chose.
Dans le mythe orphique, la nuit aux ailes noires, courtisée par le vent, aurait pondu un œuf dont naquit Eros, l'œuf primordial, dont les deux moitiés, en se partageant, auraient formé la terre et son couvercle, le ciel. Cette cosmogonie, on la retrouve dans les mythes égyptiens, péruviens, indiens, slaves et dans presque toutes les cultures. L'œuf, naissance, mort, résurrection. Un germe et un terme, et un objet du quotidien dont les métamorphoses surprennent. Jules Verne, dans L'île mystérieuse, parle des 38 manières d'accommoder les œufs. L'œuf, les œufs, passage de l'unique au nombre, de la symbolique forte aux saveurs subtiles. Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot ou deux, blanchir, serrer les blancs. Reportage à la ferme de Galie, près de Versailles, à la cantine de Radio France et un entretien avec Constantin Amariou, auteur de L'œuf. Juste un mot, et même deux, blanchir, serrer les blancs.
Blanchir, c'est-à-dire quand on verse du sucre sur des jaunes, il faut tout de suite mélanger parce que sinon le sucre va cuire le jaune d'œuf. Et on va se retrouver avec des grains. Donc blanchir. Serrer les blancs, c'est-à-dire quand on fait une meringue, on va serrer cette meringue qui monte avec des poignées de sucre pour avoir quelque chose de bien bien ferme.
Reportage. Norbert Vallée travaille en cuisine à la cantine de Radio France. Il est pâtissier de formation.
Autant que je me souvienne, la première fois, c'était ma grand-mère qui m'a préparé un œuf à la coque. Et le souvenir que j'en ai, c'est la brûlure quand j'ai posé mes doigts dessus, parce que je pensais que c'était un œuf comme les autres. Et quand je l'ai touché, je me suis brûlé. Et je me souviens aussi de quand on a cassé avec la petite cuillère le dessus de l'œuf, et puis des premières mouillettes avec le beurre trempé dans ce jaune d'œuf mi-cuit. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai de l'œuf, pour être précis. Mais sinon, je suis presque né dans une pâtisserie, donc j'ai toujours grandi avec autour de moi des Norvégiennes pleines de douzaines d'œufs. Les Norvégiennes, ça doit faire quelque chose comme 12 douzaines d'œufs rangés par plateau, de 30 œufs dans des cartons, donc. Et faut pas salir les alvéoles parce que les marchands d'œufs les récupèrent. Et j'ai toujours eu des œufs autour de moi.
Constantin Amariou, écrivain, a publié dans la collection Symbole l'œuf. L'œuf, mystère de la création, avec ses images. Peinture de Jérôme Bosch, photographie de Georges Adjou et cette étonnante Vierge à l'enfant de Piero della Francesca, où l'œuf, dans toute sa simplicité d'œuf, est suspendu au-dessus de l'enfant Jésus.
Dans le problème de la création, l'œuf est intéressant parce qu'il explique à la fois la naissance des dieux, l'origine du cosmos, mais aussi la naissance de l'homme, qui au début, paraît-il, était un androgyne, du moins. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans Platon, dans le banquet, par exemple. Et puis, l'œuf est en même temps à l'origine, comme chez les Égyptiens, à l'origine de la résurrection. Mais il faut voir si l'œuf, en tant qu'objet de consommation, est en même temps tout le temps sacré. Et je crois que chez beaucoup de peuples, on évite, par exemple, de consommer certaines parties de l'œuf pour ne pas détruire justement ce pouvoir créateur. On voit, par exemple, il y a un très grand poète roumain qui a écrit un poème qui est intitulé « L'œuf dogmatique ». Et il donne, lui, sa théorie est la suivante, dans la poésie, c'est une théorie symbolique, si vous voulez, que l'œuf est en même temps palais de noces et en même temps un caveau. C'est-à-dire qu'il est à l'origine de la vie et un lieu de mort. Et alors, il conseille à l'homme de toujours, enfin dans l'homme quotidien, de ne pas consommer l'œuf parce qu'il détruit en lui exactement ce pouvoir de création et le transforme en pouvoir de mort. En Roumanie, souvent, toujours, n'est-ce pas, on décore l'œuf et surtout c'est l'œuf rouge, n'est-ce pas, la couleur rouge comme ça. Pourquoi? Parce que on croit que quand Jésus a été crucifié, des femmes, peut-être Marie, avaient apporté un panier plein d'œufs et l'a mis au pied de la croix et le sang qui a coulé du flanc du Christ les a rendus rouges. C'est-à-dire que ce sont des suppressions.
Et la première fois que vous avez cassé un œuf?
Alors la première fois que j'ai cassé un œuf, ça je m'en souviens très bien, c'est mon père qui m'a appris à casser les œufs. Donc, on prend un litre, on casse l'œuf, avec le pouce on va gratter un petit peu pour récupérer vraiment la moindre particule d'œuf pour ne rien perdre. Et puis tous les trois œufs, on va vider notre litre d'œuf dans une autre gamelle. Parce que si jamais un œuf était pourri, ça nous éviterait de perdre des quantités phénoménales d'œuf. Donc tous les trois œufs, on change et on recommence. Et c'est lui aussi qui m'a expliqué pourquoi on faisait ça. C'est une vieille histoire, donc. Pour commencer, il faut savoir que l'œuf, c'est quelque chose qui n'a pas un prix fixe. C'est assez fluctuant, ça dépend de l'offre et de la demande, c'est la loi du marché. Il fut un temps où on n'avait pas encore des poules de batterie, où on avait des problèmes pour avoir des œufs. Et les pâtissiers, donc, achetaient ce qu'on appelle les œufs de Noël. C'est-à-dire les poules pondaient beaucoup, on va dire entre juillet et août, pendant l'été, elles pondaient plus qu'avant. Et donc les marchands d'œufs venaient demander aux pâtissiers de prendre en plus l'excédent de production. Alors ces œufs-là étaient moins chers et les pâtissiers les prenaient et ils les stockaient dans des grands bacs avec de l'eau et de la chaux. Et on les ressortait à Noël, vous voyez ? Puisqu'à Noël les prix montaient, tout le monde voulait de l'œuf. Alors ces œufs-là, il fallait impérativement les casser un par un parce que comme ils étaient restés plusieurs mois dans la chaux, il y en avait plein qui étaient un petit peu forts au niveau de l'odeur. Et c'est resté, c'est pour ça qu'on casse les œufs un par un ou deux par deux. Et dans les vieilles pâtisseries ou dans les caves, vous avez encore les bacs à œufs de Noël.
À la ferme de Galie, près de Versailles, le mercredi matin, les enfants viennent apprendre la basse-cour et toucher du bout de l'index la fragilité du poussin.
Alors toujours à deux mains les poussins.
Voilà.
On tient un poussin comme ceci. On met toujours sa main, ses deux mains comme ça. Voilà. Et on le tient. Sans trop le serrer.
Voilà.
Attention. Et ainsi, le poussin ne bouge pas.
Voilà. Donne tes mains, alors. Voilà. Mets tes mains comme le monsieur.
Tu peux le maintenir et tu ne lui fais pas mal.
Voilà, tu mets ta petite main comme ça. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait quand tu le tiens?
Il est chaud.
C'est chaud? Et puis
C'est doux.
Moi, ce qui me frappe, c'est que l'œuf brisé, on le retrouve partout.
Oui, c'est parce que tout part d'une constatation concrète. Pour que les poussins sortent de l'œuf, c'est déjà un miracle, n'est-ce pas, qu'un œuf qui, à première vue, n'a pas de vie à l'intérieur, mais en réalité, le vitellus, c'est la vie. Eh bien, tout d'un coup, après plusieurs semaines, il y a un petit poussin qui sort. Donc, il faut briser la coquille. Eh bien, les primitifs ont transposé cette expérience concrète à l'échelle universelle, en disant l'univers était lui aussi comme une sorte d'œuf, mais un œuf qui n'était pas encore couvé par quelqu'un. C'est pour ça que vous allez trouver souvent qu'à l'origine, il y avait aussi une sorte d'oiseau ou de caille. C'est presque la colombe de l'Ancien Testament qui plane au-dessus des eaux. Or, les eaux, c'est quoi? C'est le chaos. C'est peut-être l'œuf qui n'a pas encore germé. Donc, il faut briser la coquille. Et alors, il y aura une partie supérieure qui deviendra le ciel, une partie inférieure qui deviendra la terre. Et puis après, on montre comment tous les autres êtres vont naître justement de cette... Ça, c'est l'œuf cosmogonique. Mais vous avez avant un œuf théogonique, c'est-à-dire qui donne naissance au démiurge, au brahma, ou ça dépend de la mythologie. Et alors, c'est justement cette naissance divine, mais à partir de l'œuf, n'est-ce pas, qui justifie justement et qui explique en même temps la création du monde.
Et dans la mythologie indienne, l'œuf brisé, on casse à ce moment-là la coquille de l'ignorance.
C'est ça, ce qui prouve justement que l'œuf, en tant que symbole, est une théorie de la connaissance. C'est-à-dire que tout symbole est une théorie de la connaissance, et dans le cas de l'œuf, il donne la connaissance de l'origine du monde. Vous voyez, quand les savants ont dit qu'au début il y a eu le Big Bang, ils ont dit il y avait une sorte d'œuf primitif, en quelque sorte. Évidemment, c'était la matière d'une énorme densité qui était réunie sur peut-être un kilomètre de longueur, enfin, je ne sais pas exactement. Et puis tout d'un coup, mais on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, ça a explosé ou a implosé, comme vous voulez. Eh bien, ça s'est passé il y a entre 12 et 15 milliards d'années. Pourquoi l'image de l'œuf? Parce que ça rappelait un peu la science primitive. Il fallait que quelque chose explose, que la brisure de l'œuf, c'est justement du même ordre, n'est-ce pas? On le brise pour pouvoir faire naître la vie. Mais c'est surtout pour que la vie, enfin le vivant, tu vois, sorte de là.
Lorsqu'une poule a pondu des œufs, dit le Bouddha, et que la poule s'est couchée sur eux et les a tenus au chaud, lors donc qu'un des poussins, le premier, avec la pointe de son bec, brise la coquille et sort heureusement de l'œuf, comment nommera-t-on ce poussin? On le nommera l'aîné vénérable Gautama. De même aussi, ô Brahman, entre les êtres qui vivent dans l'ignorance et sont comme enfermés et emprisonnés dans un œuf, j'ai brisé la coquille de l'ignorance et seul dans le monde, j'ai obtenu la bienheureuse, l'universelle dignité de Bouddha. Suttavibhanga, cité par Mircea Eliade. Alors, en tant que pâtissier, vous avez donc eu l'occasion de travailler les œufs, hein ?
Tous les jours, absolument tous les jours. On ne fait rien sans œufs, pour ainsi dire. C'est amusant, ça. On ne fait rien sans œufs. Et à tous les niveaux, que ce soit pour les crèmes, pour les biscuits, pour les pâtes, ne serait-ce que pour le petit coup de dorure qu'on met sur les croissants avant de les enfourmer, vraiment, l'œuf est partout. C'est la base, on va dire, et l'œuf de poule.
Il y a toujours quelque chose de surprenant quand on pense à l'œuf, c'est les transformations, les métamorphoses des matières de l'œuf, c'est-à-dire le jaune, le blanc qui durcit, mais on ne sait pas quand il va durcir. Le jaune, j'ose pas en parler parce que c'est un peu mystérieux. Comment ça se passe, tout ça?
Dans l'œuf, Vous avez raison, parce que c'est presque de la magie pure, l'œuf. C'est-à-dire, tout le monde sait que le blanc monte en neige, mais c'est vrai que le jaune aussi monte en neige.
Le jaune ?
Ah oui, on peut faire monter le jaune, pas autant que le blanc d'œuf, mais...
En le battant ?
En le battant, bien sûr. Mais c'est le sabayon, par exemple, c'est du jaune d'œuf monté, comme une meringue. Mais le blanc d'œuf aussi. Donc ces deux parties, ces deux éléments montent aussi bien l'un que l'autre. On peut faire monter le blanc d'abord, incorporer le jaune. On peut faire monter tout l'œuf ensemble. Je vais vous donner trois exemples, vous allez comprendre, c'est d'une simplicité. Pour faire de la génoise, on va prendre du sucre et des œufs et on va les faire monter. L'œuf même entier, c'est-à-dire le blanc, le jaune, monte. Il monte un peu moins fort que le blanc pur, mais ça monte. Après, on va rajouter la farine et on va faire une génoise qui va être extraordinaire. On peut faire aussi du biscuit à la cuillère. Là, on va séparer nos blancs et nos jaunes. On va faire monter les blancs. Et quand nos blancs seront montés, on va incorporer le jaune d'œuf. Et on aura un autre rendu. Parce que donc la génoise, c'est, tout le monde connaît, c'est moelleux et tout. Le petit biscuit cuillère, c'est un peu plus ferme. Mais pourtant, c'est la même chose et ce sont à peu près les mêmes quantités. Mais le fait de monter d'abord le blanc, on aura un appareil qui va être beaucoup plus ferme, qui sera beaucoup plus facile d'emploi. Et on a aussi, comme dernier biscuit qu'on va pouvoir donner, c'est la Joconde, qui est donc, là c'est l'inverse du biscuit cuillère, on va d'abord faire monter nos jaunes d'œufs avec le sucre et les amandes, on va faire tripler le volume de cette pâte, et là-dedans, on va incorporer des blancs montés en neige. Et on aura, toujours avec l'œuf au départ, trois biscuits qui sont absolument totalement différents et qui n'ont rien à voir. Tout simplement parce qu'on n'aura pas incorporé l'œuf de la même façon.
À la ferme de Galy, Joël Revelli.
Vous avez devant vous donc le poulailler et je vous ai amené trois œufs. Alors, vous voyez que ce sont des œufs qui ne sont pas de taille identique ni de couleur identique. Alors, celui-ci que vous devez très probablement connaître et reconnaître, c'est l'œuf de poule. Hein? Alors, sa caractéristique, c'est sa grosseur. Hein? Même s'il y a différents calibrages, on peut trouver différentes grosseurs de poule dans le commerce. Mais voilà, donc, la taille moyenne d'un œuf de poule et sa couleur qui est un petit peu coquille d'œuf, si vous voulez. C'est une couleur qui est variable. Hein? Ça varie en fonction de l'alimentation.
Ah, c'est-à-dire ?
Voilà, c'est-à-dire qu'une poule qui va être nourrie, par exemple, avec une alimentation à base de maïs, aura une coquille d'œuf qui va être beaucoup plus colorée qu'une poule qui sera, par exemple, nourrie uniquement au blé ou uniquement avec de la farine à base d'origine céréale, naturellement. Hein? Plus on va mettre du maïs, et plus la coquille va jaunir, et plus l'œuf aussi à l'intérieur sera jaune.
Mmh. Voilà. Un œuf parfaitement blanc, comme on en voit certains.
Alors un œuf parfaitement blanc, c'est un œuf de poule, très probablement, qui ont été nourris avec de l'alimentation animale. Voilà. Alors ici, l'alimentation des poules, le matin, c'est uniquement du blé, que du blé. Et le soir, c'est de la verdure. Vous voyez, normalement, elles devraient sortir. Hein. Les poules, c'est quand même un animal qui devrait courir, se promener. Là, on a un enclos. Il n'y a pas du tout de verdure, donc le soir, pour leur équilibre alimentaire, nous leur donnons de la verdure, hein, essentiellement de la salade.
Donc le deuxième œuf.
Le deuxième œuf que je vous ai amené, c'est un œuf de canne. Alors l'œuf de canne, lui, sa caractéristique, c'est qu'il est lisse, déjà. Il est de taille pratiquement identique à celui de la poule, mais la coquille de l'œuf est poreuse, hein. Elle est rugueuse chez la poule, elle est lisse chez la canne, chez l'œuf de canne.
Et est-ce qu'elle est poreuse également ?
Ah, toutes les coquilles sont poreuses. Toutes les coquilles sont poreuses parce qu'il faut pas oublier que à l'intérieur de l'œuf, théoriquement, doit se développer le poussin, le caneton ou l'oison. Et par conséquent, il faut qu'il y ait un échange. Il faut que l'air puisse quand même passer. Et à côté, je vous ai amené un troisième œuf.
Nettement plus gros.
Nettement plus gros. Alors ça, c'est un œuf d'oie. L'œuf d'oie, lui, est par contre très blanc. Il est toujours très très blanc, quelle que soit l'alimentation.
On en voit beaucoup maintenant sur les marchés.
Ça commence, oui. Oui, c'est plus un effet de mode, je pense, que d'autre chose. Ceci dit, les œufs d'oie sont très bons en pâtisserie, mais c'est également très bon aussi à la coque.
Norbert Vallée, est-ce qu'il y a un plaisir particulier, ou une peur d'ailleurs, à toucher l'intérieur de l'œuf ou à casser l'œuf?
On va dire pas de peur, mais plus du respect. L'œuf, c'est vraiment quelque chose de magique. Vous vous rendez compte, ces petites poules qui nous font un petit truc complètement étanche, avec autant de propriétés, c'est assez extraordinaire. Donc toujours du respect, et surtout, c'est toujours l'histoire du petit coup de pouce pour gratter la coquille, de ne rien perdre, parce que c'est précieux. C'est très précieux.
Croyance. Pour les Romains, le seul moyen de se protéger de la sorcellerie était d'écraser les coques des œufs que l'on vient de manger. Dans le Brabant, il faut briser les coquilles, sinon le diable danse dessus. En Bretagne, on dit que la petite cavité ronde qui se trouve entre la peau de l'œuf et la coque a été produite par la Vierge, qui y a mis un doigt pour faire goûter l'œuf à l'enfant Jésus.
Alors à l'intérieur de l'œuf, en fait, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment se fabrique un œuf, en fait. C'est surtout ça. Donc pour avoir un petit poussin, il faut que l'ovule, c'est-à-dire ce qui va nous donner l'œuf plus tard, soit fécondé. Il faut donc un coq dans le poulailler. Hein. Une poule seule pondra des œufs qui seront tout à fait consommables, hein, mais qui ne débouchera jamais sur un poussin. Hein, pour avoir un petit poussin, il faut deux choses. Il faut une première chose, c'est-à-dire que l'œuf soit fécondé. Il y a un coq qui fécondé la poule. Et la deuxième chose, que la poule l'ait couvé, soit mis en incubation, hein, dans une couveuse artificielle, par exemple. C'est les deux conditions.
Et les stades de développement de l'œuf, par exemple, quand on se souvient tous d'avoir vu préparer un poulet, enfin une poule, et à l'intérieur, on peut trouver des œufs.
Oui, on appelle
jaune.
Ça le chapelet.
C'est le voilà, chapelet.
En fait, c'est les corps jaunes. Hein, ce que vous retrouvez, le jaune de l'œuf intérieur, c'est les corps jaunes et c'est les différentes ovules. Il n'y en a qu'une qui va être fécondée. Oui. Il y en a une qui va déboucher sur un œuf.
Donc, ces choses rondes qu'on voit jaunes, ça n'est pas encore fécondé.
Voilà, c'est pas. Il y en a une qui est fécondée et c'est celle qui va se développer qui nous donnera l'œuf.
Est-ce qu'il y a des mots particuliers qui désignent, en langage de pâtisserie ou de cuisine, qui désignent l'œuf, les préparations, la façon de le travailler, le savoir-faire autour de l'œuf?
C'est vrai qu'il y a tout un tas de vocabulaire qui est typique à l'œuf et typique aussi à certaines choses qu'il faut faire ou à d'autres qu'il ne faut pas faire pour l'œuf, notamment la puante. La puante, c'est en fait la dorure qui traîne un petit peu au frigo quand on... Enfin, ça c'est dans le temps maintenant, évidemment, on ne le fait plus. Mais quand les œufs restent un petit peu longtemps, c'est vrai qu'ils dégagent une odeur un peu forte.
Ils ont une odeur, mais puis l'apparence change aussi. Ça fait très sec sur le dessus, non ?
Ça croûte.
Ça croûte.
Ça sèche. C'est exactement ça. À ce propos, il y a une autre petite chose. Les vieux pâtissiers faisaient ça dans le temps. Maintenant, on fait ça d'une manière industrielle, mais de la poudre de blanc d'œuf. Parce que quand on se retrouve avec beaucoup de blanc d'œuf, enfin, dans le temps, les pâtissiers faisaient ça. Dans l'étuve, ils mettaient donc sur des plaques des fines couches de blanc d'œuf et on les laissait 2, 3, 4 semaines au four. Toute l'humidité s'en allait et on se retrouvait avec une poudre de blanc d'œuf. Ce qui était très pratique, on prenait, on va dire, 500 grammes de cette poudre qu'on rajoutait avec un demi-litre d'eau tiède et on repartait avec de l'œuf. Tout ça, pareil, ça date de l'époque où il n'y avait pas de frigo, où il n'y avait pas autant de facilité d'approvisionnement.
Comment est-ce qu'on fait l'œuf au plat? Il paraît que c'est très difficile à réussir.
L'œuf au plat ou l'omelette, mais on confine au sacré, là, vous n'imaginez pas la difficulté de cette chose. L'important, c'est une bonne poêle, une bonne température et de bons œufs. Puis après, il faut laisser la magie se faire. Il y a une petite chose aussi, n'oubliez jamais, un petit truc. Si vous les faites au beurre, et je crois que c'est le mieux au beurre, vous mettez votre noisette de beurre dans le fond de la casserole, dans la poêle, de préférence une vieille poêle qui a déjà l'expérience de ce genre de choses, et vous attendez que le beurre cesse de chanter. Donc il fond, il commence à crépiter, et dès qu'il s'étue, là vous pouvez verser vos œufs, et vous n'aurez pas, ça n'attachera pas.
Et à quel moment on sait que c'est bon ?
Tout dépend du goût de chacun. Il y en a qui préfèrent quand le jaune est encore, quand le jaune est cru, d'autres qui préfèrent le jaune mi-cuit, et certains qui iront même jusqu'à retourner les œufs au plat pour faire qu'ils soient cuits recto verso. Aux États-Unis, on fait ça comme ça. Moi, je trouve que c'est dommage. Je préfère avoir un jaune d'œuf qui soit encore liquide. Comme ça, je peux l'écraser, le percer, et je vois le jaune qui recouvre le blanc. Je trouve ça, c'est autre chose. Et surtout, 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 vous mettez votre pincée de sel, mais le poivre au moulin et au dernier moment avant de servir. Et là, là.
Constantin Amario.
L'œuf peut être l'objet d'une explication de la Renaissance. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les Égyptiens qui ont inventé en quelque sorte la résurrection. Et d'où s'est inspiré d'ailleurs le quatrième évangéliste, n'est-ce pas, Jean. Or, le monde judéo-chrétien a gardé de cette expérience, par le truchement du christianisme, c'est l'œuf pascal. C'est pour ça qu'on va trouver partout, chez tous les peuples, notamment chez les peuples orthodoxes, comme la Roumanie par exemple, cette coutume qui est de cogner deux œufs et de dire le Christ a ressuscité, c'est-à-dire comme si le Christ sortait de l'œuf. Parce que le Christ, c'est pareil, il est l'œuf. Il est alpha et oméga, il le dit, mais en même temps, il est le vivant. Il faut casser l'œuf pour qu'il ressuscite. Et les gens, après, mangent l'œuf.
Comment le goûtez-vous, Norbert Vallée ?
J'ai une recette. J'ai une recette qui date de 1843 et qui n'a pas changé. Et c'est une recette où on met... Pour un litre de lait, 4 jaunes d'œufs, il nous faut aussi 10 blancs d'œufs. Et on fait une crème légère, la crème chibouste un peu, enfin l'authentique crème chibouste. Et c'est une crème qui, au niveau du volume, dégage un volume considérable. Elle est légère, elle est mousseuse. Et l'intéressant de cette recette, c'est que c'est une demi-meringue. Parce que tout le monde connaît la meringue, mais là, c'est encore quelque chose de plus pointu. C'est une meringue avec beaucoup moins de sucre, avec un sucre qui est cuit à un degré assez particulier. Et on mélange tout ça à l'appareil chaud et on va garnir nos petits choux avec cette crème chaude. Et elle n'arrête pas de gonfler et de recuire. Et en fait, on met très peu de crème dans le chou et en refroidissant, elle regonfle.
Micro-ondes, l'œuf de Constantin Amariou aux éditions du Félin. L'œuf, 10 façons de le préparer, avec une jolie cuisine du typographe aux éditions Le couteau dans la plaie. De Eric Holder aux éditions First, Festin de basse-cour, une nouvelle née de l'œuf et de la poule et des recettes de chef cuisinier. Enfin, de Mallarmé, un poème de circonstance, œufs de Pâques à la Pléiade. À oreille par René Elkaïm Bollinger. Aujourd'hui, l'œuf avec Constantin Amariou, Norbert Vallée, Joël Rovelli. Enregistrement Stéphane Foulon. Mixage Jean-Louis Boissonnade. Réalisation Christine Berlamont.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 avril 1998.